Session théologique sur le mystère du Christ par le Père Philippe le 22 août à Saint-Jodard.
Nous allons ce soir entrer dans ce passage de l'évangile de Saint-Jean. Où, de fait, du chapitre 6 au chapitre 12, nous avons les grandes luttes. Et je vous disais que quand on relit ces chapitres, 6 à 12 exclus, 12 c'est l'onction de Béthanie. On est en présence de lutte, et donc ce n'est pas précisément ordonné. Je me suis demandé quel ordre pouvait y avoir. Et en lisant et relisant ces passages, j'ai découvert ceci, facile à découvrir du reste. Les grandes affirmations de Jésus. Je suis le pain véritable. Chapitre 6. On verra tout à l'heure, essayer d'expliquer. Ensuite, l'affirmation « Je suis la lumière du monde. » Et en dernier lieu, « Je suis. » Facile à découvrir exactement les références, c'est après le passage chapitre 8, je crois. Je vérifierai tout à l'heure. Je suis le bon pasteur, ça c'est plus connu. Je suis le Fils de Dieu. Chapitre 10, chapitre 11. Non, chapitre 10, ah, chapitre 11, pardon. Puis, en dernier lieu, je suis la résurrection. C'est très curieux. Vous avez donc, dans ce passage des grandes luttes, sept grandes affirmations du « je suis ». C'est du reste très intéressant si on essaie de comparer avec ce qui avait été dit précédemment, c'est-à-dire du chapitre 2, ce que je vous ai dit hier, du chapitre 2 au chapitre 6, donc 2. Nous avons le cycle de l'agneau, le cycle de l'époux, et le Fils de Dieu. Mais dans du chapitre 6 au chapitre, donc de 2 à 6, les éclosions, c'est Jean-Baptiste qui dit ça. n'est pas Jésus, c'est Jean-Baptiste. Donc, les deux grandes lumières qui viennent de l'Ancien Testament sur Jésus. Et puis le Fils de Dieu, c'est Jésus qui le dit. Là, je suis en présence des « je suis ». C'est Jésus qui dit ça. Mais vous voyez qu'il y a des correspondances faciles à établir. Je fais qu'essayer d'ordonner et de comprendre. Puis si. Et je suis la résurrection. Je ne dis pas représente une synthèse, mais c'est très étonnant de voir cette harmonie. Il est évident que quand Jésus dit « Je suis le pain », c'est lié à l'agneau. Et l'Église là nous le montre. Hein. Puisque quand le prêtre, à la messe, dit « Voici », présente l'hostie en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Donc, le pain véritable, le pain eucharistique, l'agneau et la porte. L'époux, la lumière, le bon pasteur, le Fils de Dieu, je suis. Donc, ceci, parallélisme. Maintenant, nous allons essayer de réfléchir sur la signification de ces sept grandes affirmations. Puis on entrera dedans, successivement. Parce que je crois... C'est quelque chose d'important pour nous, une découverte profonde qui, dans la théologie scientifique de saint Thomas, est restée à l'écart. Vous n'avez pas une question sur le « je suis » de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'on est en théologie scientifique. Alors on étudie le verbe qui assume la nature humaine. Mais toute l'objectivité la plus grande de la foi dans la théologie scientifique, le « je suis » du Christ, c'est Jésus qui se présente. Quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », c'est Jean-Baptiste qui présente la présence de Jésus. Quand Jésus dit « Je suis », c'est Jésus lui-même qui se présente. Et c'est important, ce « Je suis », c'est la personne du Christ. Dans toute son objectivité, « Je suis ». Et ça me semble être un aspect de la théologie mystique de montrer pleinement ce qu'est la personne de Jésus. De la manière la plus objective, et j'allais dire la plus affective aussi, la plus aimante. Remarquons que du chapitre 6 au chapitre 12, ce sont les grandes luttes. Pourquoi les grandes luttes ? Pourquoi les grandes luttes de Jésus ? Pourquoi les grandes luttes dans l'Église qu'on trouve dans l'Apocalypse ? Pourquoi les grandes luttes dans notre vie ? C'est pour montrer la présence plus profonde de Jésus. Vous voyez, quand tout va bien, il est heureux, autour d'une table, on mange bien, on boit bien, on n'est pas tellement présent, vous savez. Quand on est poursuivi par un ennemi, qu'on est obligé de se mettre dans des tranchées ou dans des caves, on est très présent l'un à l'autre. Phénomène très extraordinaire de présence. On a tous connu ça dans les moments difficiles. Je crois que Jésus n'a jamais été aussi présent à Marie qu'à la croix. C'est normal, c'est le dernier moment. Mais je crois, bien plus présent encore, vous voyez, que le petit enfant de Bethléem, qui pourtant était très présent. Les présences joyeuses sont très belles, mais sont beaucoup moins fortes que les présences à l'intérieur des luttes. Je me suis toujours demandé si au fond, Dieu permettait ces luttes pour que la charité s'intensifie et donc la présence soit plus forte. On est présent à quelqu'un dans la mesure où on l'aime, dans la mesure où on agit sur lui. Je suis présent à vous dans la mesure où je vous enseigne et dans la mesure où vous écoutez. Ça, c'est sûr. Écoutez, ça va de soi. Enseignez aussi, j'espère. Donc, on est présent l'un à l'autre. Si je jouais avec vous par une partie de foot, il y a une présence qui se fait. Tous ceux d'une équipe. Et la présence s'intensifie quand, au début, on n'a pas fait attention, il y a eu deux buts. Ah, il faut rattraper. Pff, alors là, il y a une présence sacrée à ce moment-là. Extraordinaire. On est attentif, on est là, très élevé, très présent. Et surtout ceux qui jouent très bien. Ceux qui savent, qui sont les porte-drapeaux. Parce qu'ils savent bien. Il y en a, il ne faut pas leur demander plus. Ils sont là. Parce qu'il faut le nombre. Mais il y en a quelques-uns qui, alors, eux, non. Et si j'avais été pas là, on serait perdu d'avance. Vous voyez, c'est dans les grandes luttes que la présence se fait très intense. On ne peut pas nier, c'est un fait. C'est pas de la métaphysique, ça. C'est de l'éthique et de la politique. Regardez ceux qui ont vécu la guerre de 14 dans les tranchées. Il faut voir comment ils en parlaient. Regardez ceux qui ont vécu cette dernière guerre Dunkerque. C'est-à-dire cette bataille des chars. J'ai mon frère qui était dedans, c'est pour ça que je peux le dire, parce qu'il m'en a parlé. Et je vous affirme, vous savez bien, les chars étaient tous là, refoulés par les Allemands, et tous ne pouvaient pas partir en Angleterre. On a voté. Il y en avait la moitié qui devait rester là. Et l'autre partie, il m'a dit. Mon frère était dans ceux qui devaient rester. Puis, je ne sais pas comment ça s'est fait. Et il m'a dit, c'était extraordinaire à ce moment-là. On ne se connaissait pas. Mais quand on était tous sûrs d'être pris ou d'être tués, massacrés, ben il s'est fait une union entre nous. On connaît tous ça. La cuisine. Vous savez bien, quand on est en retard, il y a une attention très très forte quand on sait qu'on est en retard et qu'il faut quand même que ce soit prêt à l'heure. À ce moment-là, oulala, le feu sacré. On est attentif. On est terriblement attentif les uns aux autres. Et tout le temps, c'est comme ça. Oui, le combat, l'alerte, les moments difficiles, on se tient. On se tient les coudes. Or, de fait, c'est facile à voir. La lutte commence ici. Jusque-là, n'y a pas de véritable lutte. Oui, les luttes sont externes. Ce qui est terrible avec le chapitre 6, le grand discours sur le pain de vie, il y a une lutte interne. C'est les premières défections. Les premières défections. C'est ce qu'il y a de plus douloureux. Les premières défections. Ils sont nombreux à suivre le Christ. Je crois personnellement que là, ça représente la première année de la vie du Christ. C'est pour ça que je dis les éclosions. Les conquêtes merveilleuses. 5000 hommes. C'est quand même pas mal. Plus 10 000 femmes. Ça, c'est pas dit. Mais c'est tout le temps comme ça, quoi. C'est dans les pèlerinages. Bon. Plus 15 000 enfants. Dans les collections d'oblats, c'est comme ça. Donc c'est bien. Vous voyez, c'est quand même un petit nombre qui suit Jésus. 5000 hommes. Vient au milieu de ça, une défection. Cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Quand Jésus dit d'une manière prophétique que sa chair est une véritable nourriture et que son sang est un breuvage. Il y a une brisure. Il y a une brisure qui se fait. Et la première, c'est toujours celle-là qui est plus sensible. Et Jésus voit une telle débâcle qu'il se retourne vers les 12 qui devaient bavarder entre eux. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Jésus, d'une certaine manière, leur rend leur liberté. Il en voit très bien. Pierre sent un peu la panique. Il prend tout de suite la parole pour dire non, on va te suivre. Mais Jésus répond, au milieu de vous, il y a un démon. La première fois, il y a un démon. Ce qui prouve que Judas a refusé, lui aussi, les paroles prophétiques à l'égard de l'Eucharistie. Et on peut dire que c'est la première grande brisure dans le cœur du Christ. Ceux qui le suivaient, qui jusque-là c'était facile, on le suivait, il y avait bien des luttes à l'extérieur, mais c'était à l'extérieur. Là, ce sont des disciples qui s'en vont. C'est toujours très douloureux, ça. Au bout d'une année. Une année passée avec Jésus. Je dis une année parce qu'il me semble bien que c'est une année. Et c'est à ce moment-là où Jésus dit, je suis le pain véritable. Il l'a dit avant, si vous voulez, mais c'est dans ce contexte. Et c'est cette affirmation, je suis le pain véritable, le pain de vie, qui fait qu'à ce moment-là, il y en a qui hésitent. Parce que c'est tellement bouleversant. Ou Jésus est fou. Au bout d'un an, l'exaltation a pu arriver. Il y a du succès. Pour un prophète, c'est pas mal, quand même. On va le proclamer roi, ça représente quelque chose. Alors, ou il est fou, ou au contraire, c'est une parole mystérieuse, mais incompréhensible. Je suis le pain de vie. Pain vivant. C'est incompréhensible. Et quand on annonce que sa chair et son sang seraient une nourriture, une boisson, mais c'est un peu... Alors voyez, avec le chapitre 6 commencent les luttes au sens très très fort. Et je crois que nous pouvons dire, si nous sommes attentifs, je suis la lumière du monde. Jésus le dit après qu'on lui a présenté la femme adultère. Et il sait très bien que l'attitude qu'il a eue en face de la femme adultère, ça risque de lui retomber lourdement. Parce qu'il les a possédés. On voulait à tout prix mettre Jésus devant une attitude impossible. Saint Augustin dit ça admirablement dans son commentaire sur Saint Jean. Où Jésus va suivre la loi, cette femme doit être lapidée. Et donc, à partir de ce moment-là, Jésus ne sera plus ce qu'il a été jusque-là, l'homme de la miséricorde. Il deviendra l'homme de la justice. Où Jésus va dépasser la loi. Alors, il est contre Moïse. Et on a un motif net pour le condamner. Donc, il est coincé. La lutte va jusque-là. Mettre Jésus devant une situation impossible. Il ne répond pas que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Ça, c'est merveilleux. C'est une nouvelle justice, c'est une nouvelle lumière. Et après ça, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je sais que certains exégètes modernes disent que c'est une péricope qui n'est pas tout à fait à sa place. Moi, je prends l'évangile tel qu'il est présenté pour nous. Et c'est magnifique de voir qu'après la miséricorde, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Parce que quand on va trop loin dans la miséricorde, on dit, ah, il manque de prudence. Il ne voit pas toutes les conséquences. Il est trop pris par son bon cœur. Hein, on entend ça. C'est toujours ce qui se dit. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Ah ! La miséricorde dépasse tout dans une lucidité parfaite. Je suis, c'est la grande lutte. Le sommet des luttes. Hein. Je crois que c'est le chapitre des luttes les plus grandes. C'est le chapitre 9. Chapitre 8, juste après. C'est la plus grande lutte, là. Jésus, dans le temple, n'hésite pas de dire, votre père, c'est le diable. Quand il ne peut pas aller plus loin. Il dit ça à ceux qui l'écoutent, au peuple d'Israël. Au moment de la fête des tentes, la fête de l'action de grâce, votre père c'est le diable. Bon, la lutte est à son maximum et Jésus à ce moment-là dit la parole la plus étonnante qui soit, je suis. Pour un israélite qui connaît parfaitement la révélation, c'est la grande révélation faite à Moïse. Je suis. C'est Dieu. C'est étonnant, ça. Et juste après, et au moment où la lutte a connu son maximum, je crois, le maximum des luttes, chapitre 8, est l'exécution à la croix, c'est évident. Et dans les paroles, dans les discussions, c'est le chapitre 8. La fin du chapitre 8 qui est le sommet. Et ça correspond à cette parole très étonnante, je suis. vous avez ici, la lutte est moins forte, beaucoup moins. C'est le point de vue du gouvernement divin. La porte, le bon pasteur, le Fils de Dieu. C'est beaucoup moins fort comme lutte. Mais c'est quand même à l'intérieur des luttes. Et je suis la résurrection, c'est à Marthe. Jésus ne dit pas « je vais être ressuscité ». Je suis la résurrection. C'est étonnant. Alors essayons de comprendre maintenant. Chacune de ces affirmations, et pour comprendre à travers chacune de ces affirmations, le mode de présence de Jésus. Pour chacun d'entre nous. La théologie mystique me montre comment Jésus se communique à nous, comment il est présent dans notre vie. Et c'est du chapitre 6 au chapitre 12 que nous avons là la grande théologie des présences, ou de la présence, selon ces 7 modalités. On va essayer d'entrer là-dedans. Alors, avant, chaque fois, il faut développer un aspect de la révélation, il faut se servir de notre intelligence. Si nous sommes un peu attentifs au développement de la métaphysique, je m'excuse, philosophie première. La philosophie première, je ne vais pas faire toute l'analyse, aboutit au terme à réfléchir sur le « je suis ». Aristote ne l'a jamais dit, mais je le dis. Je suis très conscient en le disant. Vous savez bien, il y a quelqu'un qui l'a dit. « Cogito ergo sum ». Il l'a dit en latin, pour que personne ne comprenne. Cogito ergo sum. Mais du temps de Descartes, tout le monde connaissait le latin. Alors ça... Mais vous voyez, le cogito passe avant l'ergo sum. Je pense, donc je suis. Si nous avons une métaphysique réaliste, nous partons du jugement d'existence. Ceci est. Et nous essayons de comprendre, non pas le ceci, ça n'a aucun intérêt. Ça peut être la vache, ça peut être le pupitre, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'homme, ça peut être Pierre, Jacques. C'est est. Je mets tout l'accent sur « est ». Ceci est. Mais c'est là où Maritain parle d'intuition de l'être. Parce que Raïssa, l'épouse de Maritain, que j'ai bien connue l'un et l'autre, parce qu'ils étaient de grands amis du Père de Haut, Raïssa dit un beau jour, il y avait le petit chat à côté, puis elle était là, Raïssa. Très intelligente, Raïssa. Russe, juive, convertie. Elle a regardé le petit chat. Elle dit, le petit chat existe. Moi aussi, j'existe. Comment ça se fait? Notre œcuménisme. Nous sommes un dans l'exister. Je sais pas, il y a pris un troisième, je crois. Non, elle a simplement regardé le chat. Elle dit quand même, c'est curieux. Et alors elle dit, à ce moment-là, j'ai eu l'intuition de l'être. C'est pas tellement juste. Il faut bien corriger un peu Raïssa, elle était très poète. C'est vrai, elle était très poète, elle avait des intuitions fulgurantes, Raïssa. Et Jacques a dit, quand Raïssa est morte, toutes mes intuitions sont venues de Raïssa. C'est vrai que la femme est évidemment plus intuitive que l'homme. Et Maritain a cessé de faire de la philosophie. L'intuition de l'être avait disparu. Donc, ceci est. Là, je ne dis pas que c'est l'intuition de l'être. Je dis que c'est l'intuition qu'il y a quelque chose qui dépasse le chat et Raïssa. L'être. On a l'intuition du dépassement de l'être à l'égard de toutes les déterminations. C'est bien ce que je signale ici. Le ceci peut être aussi bien Pierre, Jacques, la vache, le chat, et puis « est ». Et donc je dis « ceci est ». Je mets en pleine lumière « est ». Et je me pose la question, après avoir eu cette intuition du dépassement de l'être par rapport au « ceci », on n'a pas une saisie de l'être directe, mais on interroge. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et là, Heidegger a raison. La métaphysique commence, la philosophie première commence par une interrogation. Je n'ai pas l'expérience de l'être. J'ai l'expérience de ceci et Pierre, de la vache qui existe. Je n'ai pas l'expérience de l'être. Mais j'ai l'interrogation sur l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et une fois que j'ai cette interrogation sur l'être, je cherche à connaître et je découvre successivement les principes propres de ce qui est la substance, l'être en acte, les deux principes propres, et puis l'un. Propriété. Et je termine toute cette analyse de philosophie première en me disant, si je recherche et si je découvre la substance, si je découvre l'être en acte, si je découvre la propriété, c'est pour mieux connaître ce que je suis. Je fais de la métaphysique, la philosophie première, pour mieux comprendre ce que je suis. Et donc je reviens à cette affirmation fondamentale, je suis. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand je dis je suis. Non plus du tout comme Descartes, mais tout simplement l'expérience que nous avons tous. Vous pouvez tous avoir cette expérience. Je suis. Ne me touchez pas, je suis. Intouchable. Je vous affirme, je suis. On a fait tout un cours, il y a 2 ans, je crois, pendant toute l'année, au plan métaphysique, sur le « je suis ». Pour mieux comprendre le « je suis » de l'Écriture, et le je suis de Jésus. Je vous affirme, c'est extraordinairement intéressant parce que c'est là où on comprend que toute l'analyse métaphysique se termine à quelque chose d'extrêmement concret. Je suis. Rien n'est plus concret que ça. Et rien n'est plus profond que ça. Parce que dans le je suis, vous avez l'expérience de ce qu'il y a de plus profond en vous. Je suis. Le je suis est plus radical que cogito. C'est bien plus radical. Parce que je ne pense pas tout le temps. Il y a des moments où je dors pour mieux penser. Parce que si je pensais tout le temps, si je passais toute la nuit à penser cogito, 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 demain matin j'arriverai au cours en continuant à dire cogito, cogito. Et puis il n'y aurait plus aucune explication. On a besoin de dormir. La preuve, c'est quand on ne dort plus, on prend des médicaments pour dormir. On a besoin de dormir, c'est très important de dormir. Dieu a inventé le sommeil dans sa sagesse. Il a inventé le sommeil. Si vous aviez été Dieu, vous ne l'auriez pas inventé. Mais il l'a inventé, lui, parce qu'il est plus intelligent que vous. Alors, il a inventé le sommeil. Le « je suis », vous le constatez quand vous dormez. Vous êtes incapable de dire « je suis ». À ce moment-là, un troisième dit « ceci est ». Faites attention. Dans une objectivité parfaite. Ceci est « je suis ». Et vous le réveillez, dites « je suis ». C'est extraordinaire de bien comprendre ces deux. Le « ceci est », je l'atteins de l'extérieur. Et le « je suis », je l'atteins de l'intérieur. Rien n'est plus subjectif que le « je suis ». Et rien n'est plus objectif que le « je suis ». Vous voyez, ça c'est excellent de dire ça, parce que ça renvoie bien à l'idée, cette distinction objective et subjective, qui est une distinction tardive d'une scolastique décadente, et qu'il faut laisser tomber. C'est très important ça, l'être est au-dessus de ça. Or c'est l'être qui m'intéresse. Est-ce que l'être est objectif, est-ce que l'être est subjectif? Ben il est les deux, l'être est... Il s'en fiche de ça. Il est. Il est. Et quand je dis je suis, je saisis toute mon intériorité et je saisis aussi toute mon extériorité. Mon corps existe. Et mon corps, c'est moi. Et mon corps, c'est pas ma tête, c'est pas ma pensée, c'est pas ma capacité d'aimer. Je suis. C'est très très important de comprendre que toute la métaphysique de la substance, de l'être en acte, c'est pour, et la propriété, c'est pour comprendre le je suis. Et donc comprendre par là la personne humaine. Il y a quelque chose dans la personne qui se traduit par le je suis. C'est pour ça que quand on dit la personne n'est pas un objet, aujourd'hui ça se dit tout le temps, même le Saint-Père le dit, la personne n'est pas un objet, qu'elle est un sujet, elle est sujet-objet. J'aime pas beaucoup ça. Là, c'est de la philosophie, je peux dire ça. Je le dirai au Saint-Père. Parce que c'est une distinction qui s'est faite en scolastique et qui n'est pas exacte pour la métaphysique. Vous voyez, vous allez mieux comprendre notre cher Père Dubarl, dont je parlais déjà, qui était professeur à l'Institut catholique de Paris. Je dis ça parce que on se connaissait bien, il n'y avait pas une très grande différence d'âge. Et on a commencé ensemble, lui à Paris, moi à Fribourg, les cours de philosophie. Et la dernière année qu'il enseignait à l'Institut catholique de Paris, il a dit, puisque c'est la dernière année, je vais poser le problème. En Europe, nous nous trouvons en face de deux philosophies premières. Celle d'Aristote, objective. Celle de Descartes, subjective. Mais j'ai beaucoup réfléchi sur ce problème. Il posait comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une métaphysique qui soit objective et subjective? C'est-à-dire que n'opposons pas Descartes et Aristote. Ce serait même merveilleux si on ne pouvait pas les opposer. Le seul inconvénient, c'est que Descartes a dit lui-même qu'il s'opposait à Aristote. Dans une conscience claire. Et il s'est opposé à Aristote sur l'ordre des interrogations. Aristote dit, la première interrogation, est-ce que ça existe? Seconde interrogation, qu'est-ce? Et Descartes dit non. Première interrogation, qu'est-ce? Les idées, leur signification. Seconde interrogation, est-ce que ça existe? Ça a l'air de rien, mais c'est justement ça qui montre qu'on ne peut pas unir Descartes et Aristote. Et le problème est mal posé. C'est pas une philosophie première objective et l'autre subjective. Non. C'est la philosophie de l'être, de ce qui est, ou la philosophie de l'idée. De l'idée d'infini. C'est là la grande différence. Et comprendre que la philosophie de l'être est au-delà de la distinction objet-sujet. Parce qu'on aboutit à la personne. Au terme de la métaphysique, on étudie la personne. Et c'est à partir de la personne qu'on pose les cinq voies. En les reprenant, il ne faut pas répéter saint Thomas. Parce que saint Thomas, c'est dans un contexte théologique. Il faut, à partir de la personne humaine, découvrir qu'il existe une première personne. Une personne qui soit l'être. En acte. Acte pur. Cette personne, c'est Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, il faut poser le problème des voies d'accès vis-à-vis de Dieu par le problème de la personne. Mais au niveau métaphysique, pas au niveau psychologique. Parce qu'au niveau psychologique, vous resteriez dans les nostalgies. Le moi. Je ne peux pas découvrir Dieu par le moi. Le je suis n'est pas le moi au plan philosophique. C'est pas la même chose de dire je suis ou moi. Moi, je pense. Moi, je travaille. Moi, je suis intelligent. Moi, j'aime. Moi. Et là, vous noyez tout dans le moi. Tandis que le je suis est un jugement objectif où je saisis par l'intérieur mon existence. Je saisis quelque chose qui me résiste. Je suis. Ma pensée se heurte à ce je suis. Je ne peux pas dire je suis égal mon cogito, égal ma pensée. Non. Mon je suis est plus que ma pensée. Et donc, il y a là quelque chose qui résiste à une pure subjectivité, à ce qui est uniquement connu. Le moi, c'est ce qui est connu du je suis. Le moi, c'est ce qui est aimé du je suis. Mais ce n'est pas le je suis. Donc ça, il faut bien le comprendre. C'est pour ça que je ne peux pas identifier le je suis à la conscience que j'ai que je suis. La conscience que j'ai de moi, c'est mon moi. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif, une fois qu'on a bien compris ça. Et ça, on doit le comprendre au plan philosophique. Autre chose, la conscience qu'on a de soi et l'affirmation « je suis ». Ça, je crois qu'on peut tous comprendre ça. C'est très important. Parce que ça montre que la métaphysique va jusqu'à « je suis ». Et que la philosophie première se termine à ce « je suis ». Alors, maintenant, revenons à la révélation. Jésus dit « je suis le pain de vie ». Il y a le « je » personnel. Le « je » personnel. C'est la personne du Christ. Or, la personne du Christ, c'est le Verbe. Si je suis croyant, je ne peux pas dire qu'il y a deux personnes dans le Christ. L'union hypostatique, nous le verrons demain. L'union hypostatique, c'est l'union dans la personne du Verbe. Il y a deux natures et une seule personne. Donc le je suis, c'est la personne, c'est le Verbe. Le pain. Dites pas c'est métaphorique. Ah, peut-être, après tout. Le pain. Est-ce que je peux dire que Dieu est pain? Est-ce que je peux dire que le Verbe est pain? Oh, c'est très curieux. C'est très étonnant, ça. Ouais, c'est extraordinaire. Si c'est le pain, ben, c'est une œuvre que l'homme a faite. Et c'est sensible, ça se voit du pain. Demain, vous allez auprès de la corbeille, il y a pain, vous prenez du pain. Et si on veut mettre, je ne sais pas quoi, des pierres, on pourrait faire l'expérience. Qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui? Change ces pierres en pain. C'est pas commode. Le pain, c'est l'œuvre de l'homme, le fruit de l'œuvre de l'homme. Je suis le pain. Alors, c'est la personne du Christ qui dit qu'elle est pain. Mais tout ce qui est impliqué dedans. On pense tout de suite à l'Eucharistie. Jésus, dans l'Eucharistie, garde le silence. Et il a, une fois dans sa vie, dit « Je suis le pain véritable. Je suis le pain de vie. » Il montrerait bien qu'à travers les apparences du pain, Jésus se donne comme le pain véritable dont on se nourrit. Et je crois que c'est ça que ça veut dire. C'est lié à l'Eucharistie. Il est le pain véritable. Il est le pain de vie. Normalement, le pain est l'aliment. L'aliment n'est pas le vivant. L'aliment est ordonné au vivant. Tandis que quand il dit le pain de vie, il veut dire qu'il est source de vie. Cet aliment est source de vie. Il n'est pas du tout comme les autres aliments. Tout à fait différent. Je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant. Jésus, là, montre que sa personne, qui est le Verbe, est présent. Le pain véritable, le pain eucharistique. Je crois qu'on peut dire ça. Mais on peut peut-être dire autre chose aussi. On verra ça demain.